Palabre, en forêt.
L'émission qui va à la rencontre des actrices
et des acteurs de nos forêts cévenoles,
du Gard et de la Lozère.
Avec une rubrique découverte des richesses sauvages des forêts cévenoles et parfois des forêts francophones du monde.
Sur Radio Bartas.
107 FM.
Et bienvenue sur cette nouvelle émission de Palabre en forêt. Bonjour les copains des bois, bonjour Margot.
Salut.
Alors aujourd'hui, une émission en extérieur, sans Aymeric malheureusement, mais on le retrouvera au prochain épisode. Nous sommes à Méjane-le-Clap, sur le site de la Grotte de la Salamandre, magnifique bâtiment en bois. Et nous sommes là exceptionnellement pour le jury du prix régional de la construction bois. On va rencontrer les membres. À de suite.
Alors on est avec Jeanine Bourrelli qui fait partie du conseil d'administration de Fibo Occitanie et qui est présidente de ce jury donc du prix Construction Bois Occitanie, et avec Yann Clèche, donc prescripteur bois à Fibo Occitanie. Alors on a quelques questions pour tous les deux. Peut-être que vous pouvez commencer soit l'un soit l'autre à nous présenter rapidement ce que c'est Fibo Occitanie.
Fibo Occitanie, donc c'est l'interprofession de la filière forêt bois en région Occitanie. Donc on réunit tous les professionnels de la filière, donc de l'amont à l'aval, donc c'est très large, donc ça peut être les propriétaires forestiers, les scieurs, les menuisiers, les constructeurs, jusqu'aux architectes et à la maîtrise d'ouvrage. Donc le but c'est de promouvoir le matériau bois sous toutes ses formes, donc à la fois en construction, en produits de première transformation et aussi en bois énergie. Et donc aujourd'hui on est là pour le cadre de la mise en valeur de la construction bois en Occitanie et au national, parce que c'est une année du prix national. Et voilà.
Et Jeanine, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce prix? Qu'est-ce que c'est? À quoi il sert? Quel genre de projet on y retrouve?
Ce prix sert à valoriser le bois. En fait, on a beaucoup de bois, notamment en Occitanie, avec lequel on peut faire des très belles choses. Et aujourd'hui, il nous paraît important, parce que ça peut permettre d'avoir un habitat de qualité qui gère notamment les problèmes de chaleur, de climatologie et tout, beaucoup plus facilement que le béton ou la pierre, d'une part, et d'autre part, qui est moins onéreux, et contrairement à ce qu'on peut penser, qui vit très bien. Ici, ça a été le premier prix de la construction bois Occitanie, et c'est très intéressant de venir voir 13 ans après comment ça fonctionne, et ça fonctionne très bien. Et c'est chaleureux, on y est bien, on se sent bien. C'est un paysage magnifique en plus, et un architecte au top.
Voilà. Tu peux nous rappeler qui est l'architecte de ce lieu, de la Grotte de la Salamandre?
Oui, alors c'est Jean-François Dor, c'est un architecte local, mais qui est très connu, même sur le plan mondial, parce qu'il a fait des travaux assez extraordinaire. Aujourd'hui, il enseigne à Rabat l'architecture et notamment tout ce qui est mur végétal. Et tout. Il vient de faire un immeuble de plus de 100 mètres haut qui sera complètement végétalisé. Et du coup, je suis présidente parce que j'ai dit à Fibo Occitanie, je suis de l'amont, c'est-à-dire que je ne suis absolument pas concernée par la construction bois, donc je peux être la plus ouverte possible à tout.
Tu es de l'amont, ça veut dire que tu es forestière,
voilà,
alors.
Voilà, ça veut dire que je fabrique des bois qui, j'espère, un jour, verront une vie continuer avec les hommes.
Et alors, tu as déjà un peu évoqué les différents avantages du bois dans la construction. Ici, il s'intègre parfaitement dans le paysage. Donc, pour les auditeurs, auditrices, on est au milieu de la forêt et on a un bâtiment en bois qui est vraiment magnifique. Est-ce que Yann, tu peux nous donner quelques autres avantages du bois qui peut être utilisé dans la construction?
Déjà, y a des avantages qui sont pas visibles du point de vue économique, mais ça va être sur la qualité de vie. On sait que, donc il y a des études scientifiques là-dessus, que le bois, ça réduit le stress, donc notamment le bois en intérieur, aussi bien sûr en extérieur. Et aussi, ça a des bienfaits en termes de qualité de l'air. Et pour parler de la filière économique, c'est aussi, ça permet d'utiliser la filière locale. Donc à la fois une ressource locale par les forêts, parce qu'on est la deuxième région la plus forestière en Occitanie, et aussi par les entreprises, donc parce qu'on peut faire appel à des entreprises locales.
Et dans le, je pense par exemple au cycle du carbone, est-ce que construire en bois, ça peut aussi permettre de stocker du carbone sur du long terme par rapport à, par exemple, si on valorise le bois en bois énergie?
Oui, ce qui est demandé à un bâtiment, c'est de tenir au moins 50 ans. Donc c'est au moins, ça ne veut pas dire qu'il va tenir 50 ans, c'est vraiment le minimum. Et en fait, le bois, il va stocker une tonne de carbone par mètre cube. Et donc, si on utilise le bois pour des longues durées de vie, comme pour le bâtiment, ça permet de stocker durablement le carbone. Et en plus, c'est une ressource renouvelable. Et donc, ça permet de replanter des arbres et donc de restocker du carbone en forêt.
Merci beaucoup. Alors, on a pu assister ce matin à vos travaux de sélection des projets. Du coup, vous pouvez nous expliquer, il y a l'air d'avoir plusieurs catégories. Vous avez reçu combien de projets cette année ?
Normalement, il y a 8 catégories différentes. Donc après, ça dépend aussi des candidatures qu'on a, c'est adapté. Cette année, c'est une année du prix national. Donc en fait, on a moins de candidatures par rapport à une année du prix régional. Parce que cette année, ce sont des candidatures qu'on va sélectionner et les remonter au prix national. Mais par contre, donc c'est une fois tous les 2 ans, il y a le prix régional qui là réunit beaucoup plus de candidatures.
Donc cette année, les candidatures de cette année.
Oui, y compris celles pendant le prix national. Donc en fait, sur une année comme celle-ci, on est sur 30 candidatures. Et sur les années du prix régional, on est à plus de 90.
Ah oui.
Donc on était à 97 l'année dernière.
Quel type de projet on retrouve ? Qui peut candidater ?
Donc tout le monde, enfin tous les professionnels et qui ont participé à la réalisation d'un projet peuvent candidater. Donc c'est surtout les architectes, on essaie aussi de pousser les entreprises bois à candidater par elles-mêmes. Mmh. Et il y a plusieurs catégories différentes, donc ça va être de l'aménagement intérieur, aménagement extérieur, ça va être apprendre à se divertir, donc en fait ça peut être des groupes scolaires, des logements collectifs, des immeubles de bureaux, donc du tertiaire, ça peut être des usines, voilà, c'est très 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 large.
Merci beaucoup. Et est-ce que voilà, vous auriez des conseils pour les maîtres d'ouvrage pour le recours aux matériaux bois ?
Je dirais que c'est quelque chose, le matériau bois, c'est quelque chose maintenant d'assez courant. Et si on n'a pas l'habitude d'en utiliser, il ne faut, faut pas hésiter à contacter des personnes qui peuvent vous aiguiller. Donc par exemple, c'est notre rôle à Fibois de conseiller la maîtrise d'ouvrage sur l'utilisation du matériau bois. Mmh. On peut vous aider aussi à trouver des professionnels reconnus et aussi de la ressource. Et on peut vous aider aussi, bien sûr, en termes de technique. Donc, n'hésitez pas.
Et on trouve vos contacts sur Internet. Peut-être tu peux donner l'URL de votre site Internet.
Oui, c'est fibooccitanie.com. Et donc, vous trouverez dessus tout le résumé de nos actions. On a une infolettre à laquelle vous pouvez vous abonner. On fait régulièrement des visites de chantier bois et des visites d'entreprise. Et on a aussi une équipe sur différents sujets, emploi-formation, la prescription bois, et voilà.
Je pense qu'il y a une catégorie qui manque au niveau régional, et je pense qu'il faudrait la faire venir, c'est la construction volontaire indépendante. Parce qu'il y a de plus en plus des privés, parce que c'est vrai que construire en bois, ça coûte beaucoup moins cher que de construire autrement. Aujourd'hui, on est dans une situation économique qui n'est pas facile. Et je vois, en tout cas au niveau rural, des gens qui aujourd'hui s'organisent et construisent leur maison en bois. Donc je trouve que ce serait bien que ça puisse participer.
Nouvelle catégorie potentielle à intégrer alors.
C'est vrai, c'est intéressant.
Super, merci à tous les deux. Vous êtes toujours sur Radio Barthas 107FM, c'est l'heure de la petite pause musicale. Aujourd'hui on vous propose d'écouter Irganda du groupe Sango Blues.
Irganda go baba mainda mai mir baba irkwetana vera jero mir baba Irganda go baba mainda mai mir baba irkwetana vera jero
Nous sommes maintenant avec Bérénice Berthelot, qui est directrice de la grotte de la Salamandre. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler déjà de la grotte Qu'est-ce que vous y présentez comme activité touristique Qu'est-ce que c'est la grotte de la Salamandre?
Bonjour d'abord. Alors la grotte de la Salamandre, c'est une des plus grandes salles concrétionnées d'Europe. Donc on a des concrétions titanesques qui font à peu près une vingtaine de mètres. Voilà, la salle principale fait 1 hectare. Et on est certes un site touristique, mais on est aussi un site familial et pour les Gardois. Ce serait bien que vous veniez la découvrir, on entend encore trop souvent. Oh, bah, je ne connais pas. Voilà, donc c'est vraiment pour tout le monde. On y propose plusieurs activités, donc comme toute grotte, elle se visite en visite guidée. Donc on a des guides passionnés qui vous accompagnent pendant 1 heure pour vous la faire découvrir. On a aussi des activités spéléo. On a eu la chance, en fait, l'entrée naturelle est au plafond. On a eu la chance de pouvoir l'aménager avec 5 cordes. Donc on peut encore la visiter comme les inventeurs, ceux qui ont découvert la grotte, 4x4, accompagnés d'un moniteur brevet d'État, et on descend 50 mètres, 20 mètres dans le puits d'accès, 30 mètres dans le vide, et on découvre cette salle titanesque par le plafond. On peut aussi aller visiter d'autres petites salles à côté qui ne sont pas aménagées pour le grand public parce que les concrétions sont beaucoup plus fragiles et on veut les protéger, donc en mode spéléo, et on part pour 2 heures visiter les coulisses de la Salamandre. On propose également quelque chose d'unique au monde. C'est pour vous montrer comme la grotte est grande, on peut voler à l'intérieur. On a l'aéroplume de Jean-Pierre David de Aérosculture, un gros ballon gonflé à l'hélium avec un espèce de cocon dans lequel on s'allonge, on tend les bras, on attrape des ailes et en poussant l'air, on vole, nage dans la grotte. Il n'y a que ici qu'on peut le faire dans le monde, ça donne très très envie. À la fin de chaque visite guidée, vous avez un petit spectacle son et lumière de 3 minutes, Rébellion, qu'on avait fait pour nos 10 ans d'ouverture, qui a beaucoup plu. Donc depuis 2 ans, on propose un autre spectacle qui dure 45 minutes, musique de film. Donc on a choisi 10 musiques de film et on a créé les ambiances lumineuses qui vont avec. Et donc là, on s'immerge vraiment dans le 7e art et on voit la grotte différemment.
Merci beaucoup. Et donc voilà, la grotte a été créée en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Et on voit donc que l'enceinte d'accueil et la grande terrasse devant la grotte, donc tout est en bois. Sauf erreur, c'est à cause des contraintes naturelles du site que le bois a été choisi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du choix du bois ?
Alors effectivement, la grotte a été aménagée pour le public en 2013. On a ouvert nos portes à ce moment-là. Et on est en zone protégée Natura 2000, avec 7 normes environnementales qui nous entourent. Et donc, il a fallu qu'on trouve quelque chose qui permettait, pour la protection de l'environnement, d'avoir un bâtiment démontable. On a choisi le bois avec des essences locales, notamment le Douglas, parce que ça nous paraissait vraiment bien s'intégrer. Et ce bâtiment repose sur très peu de plots béton, c'est-à-dire qu'en fait, si on devait arrêter notre activité, on pourrait tout démonter très rapidement et la nature reprendrait ses droits au bout de 2 ans. D'où le choix du bois qui permettait vraiment de s'intégrer aussi dans cette très belle nature. On a une garrigue fantastique, on est vraiment dans un écrin de verdure. Donc c'était vraiment de rester dans cette optique de protection de l'environnement et de s'intégrer, de ne pas dénaturer le site.
Et alors, comment est perçu un petit peu ces aménagements bois, que ce soit vos visiteurs ou les personnes qui travaillent? On a vu qu'il y a une équipe qui a l'air quand même assez conséquente. Est-ce que vous avez des retours positifs des différentes personnes sur ces aménagements en bois?
Alors, on a toujours, en fait, quand dans le choix aussi d'aménagement, le parking est à 700 mètres pour justement laisser les voitures loin des zones protégées. Et du coup, quand on prend ce petit chemin qu'on a aménagé aussi un petit peu pour que ce soit ludique, on arrive au détour d'un virage et on tombe sur le bâtiment. Ça fait comme un bateau au milieu de cette verdure. En fait, voilà, la conception a été faite pour qu'on ait l'impression de flotter vraiment dans cette mer verte qui est notre belle garrigue autour. Donc on a vraiment des retours très très positifs de nos clients qui trouvent qu'on a un site magnifique. Cette terrasse suspendue justement qui était un choix technique parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, on est à flanc de colline, donc ça permettait de gagner de l'espace sur le vide, mais qui donne un effet d'apesanteur et de sérénité qui est quand même assez magique. Voilà, après c'est vrai que le bâtiment est très très beau, donc du coup c'est assez fonctionnel. L'avantage c'est que du coup on n'a pas besoin de chauffage. Bon, alors on est obligé de fermer aussi pour la protection des chauves-souris en hiver, donc on met le bâtiment hors gel en fait sans avoir besoin de chauffage. Après je vous avoue que c'est bon, si on devait travailler 15 janvier et qu'il fait moins de 5 degrés dehors, on n'est pas très confortable. Mais voilà, sur notre période d'ouverture, donc du 15 mars jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, on arrive à avoir des conditions de travail très très sympathiques. Après, voilà, ça a des contraintes, le bois ça s'entretient.
Ah oui.
Voilà, mais on a nous décidé de le laisser vieillir pour faire cet effet un peu grisé à extérieur. Après, l'intérieur, c'est vraiment très très confortable. On a un peu chaud, mais on a notre grotte qui nous permet de tirer un petit peu de fraîcheur pour un peu climatiser le bâtiment. Et du coup, même quand il fait un peu frais, on reprend un peu de chaleur du coup de la grotte. Ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais on prend des 12 degrés de la grotte qu'on met dans le bâtiment pour pouvoir équilibrer les températures et qu'il soit hors gel.
Okay. Merci beaucoup. Merci Bérénice Berthelot.
Avec grand plaisir.
Et nous rejoignons donc l'architecte du bâtiment de la grotte de la Salamandre, Jean-François Dore, cabinet Archivision. Bonjour.
Bonjour.
Alors, donc vous êtes le concepteur de ce bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse du projet? Quel a été en fait votre cahier des charges? Quelle était la commande? Et si vous pouvez nous parler des principaux défis que vous avez eus avec ce bâtiment-là?
Alors, le projet est à l'origine de 2 spéléologues qui ont découvert la grotte et qui ensuite ont souhaité l'ouvrir au public. Lorsqu'ils sont venus me voir avec leur projet, tout était encore un projet, j'ai envie de dire, de papier. Tout était dans les cartons et des contraintes, il y en avait pas mal. D'abord, le site est situé en zone Natura 2000, deux zones ZNIEF, zone nationale d'intérêt écologique, floristique et faunistique. Il n'était pas accessible ni aux véhicules, il n'y avait pas de réseau. Et je le dis souvent, y compris pour le chantier, il n'y avait pas de téléphone mobile, il n'y avait pas de téléphonie. Donc c'était une contrainte aussi. Deuxième contrainte, la contrainte liée à la zone Natura 2000 et à la zone ZNIEF, il fallait faire un chantier écologique qui ne fasse pas de nuisances, pas de pollution sonore non plus. Ensuite, finalement, il y en avait pas mal de contraintes. Il y avait aussi le fait que on est en forte déclivité, on est à flanc de la falaise, donc il n'y a pas un endroit ici où on n'est pas à 11 mètres du sol. On ne s'en rend pas compte maintenant que c'est terminé, mais la seule bande de terrain où on est par terre, si je puis dire, c'est là, au niveau du banc. Sinon, il y a toujours 11 mètres sous les pieds. Donc, avoir un effectif de 27 personnes, 13 entreprises, sans compter la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, il fallait être vigilant. Ensuite, c'est un chantier sur lequel j'étais présent tous les jours, parce que c'est ma volonté d'architecte que d'être avec les artisans quand on construit. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce soin apporté au niveau du détail, où tout a été pensé, le moindre banc, le moindre élément de mobilier, la moindre finition a été pensé en discussion avec les artisans.
Merci. On voit la forme particulière du bâtiment, une forme de demi-ogive. D'où est venue l'idée de ce dessin-là ?
L'idée de ce dessin-là, elle est venue du fait que cette grotte, elle a des millions d'années, et donc mettre une architecture qui permette comme ça, comme un sas, de rentrer dans quelque chose qui n'a pas d'âge finalement, imposer de réfléchir à l'aspect un petit peu vernaculaire de cette architecture, trouver un côté intemporel, et cette forme en forme d'ogive est la façon la plus simple et la plus traditionnelle qui soit d'exprimer la descente des charges. Et donc en plus, c'est un système constructif très simple avec des arceaux, donc ça a été préfabriqué en atelier et amené directement sur le chantier, parce que dans les contraintes il y a l'accessibilité au site, mais on avait aussi le temps. Tout le projet a été réalisé en seulement 80 jours.
Waouh, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Voilà, pourquoi vous avez pris ce projet? Qu'est-ce qui vous a séduit? Et aussi, aujourd'hui, vous avez participé au prix de la construction bois Occitanie. Quels sont vos retours de cette journée?
Alors, pour répondre dans l'ordre à vos questions, les contraintes m'ont beaucoup intéressé, c'est-à-dire que si vous venez me voir pour faire une villa, j'ai envie de dire en ciporex, béton tuile, je déclinerai, tandis que là, l'ensemble des contraintes étaient réunies pour que je puisse m'exprimer. Également l'autonomie, puisqu'on est sur un bâtiment absolument autonome, autonome en énergie, autonome pour son assainissement. La seule chose que l'on a à disposition, c'est l'eau. Et ensuite, ce bâtiment a eu l'honneur d'avoir le prix Palmarès Construction Bois 2013 de sa toute première édition. Donc c'est pour ça qu'on m'a invité à participer au jury de l'édition 2026.
Donc aujourd'hui on était dans le cadre du prix régional de la construction bois. Donc on a vu tous les bâtiments qu'on a vus étaient réalisés en partie ou en totalité en bois. D'une manière générale, est-ce qu'aujourd'hui les architectes et les prescripteurs utilisent beaucoup du bois? Est-ce que c'est un matériau qui est en vogue ou pas aujourd'hui le bois dans la construction?
Alors le bois est un matériau qui est en vogue dans la construction, justement pour toutes les qualités que je viens de citer, et notamment le bilan carbone, mais il devrait l'être davantage. Et il faut dire que par exemple aux États-Unis, 97% des bâtiments sont construits en bois, qu'en Europe du Nord on a des églises qui datent de 1200, donc du 13e siècle, et qui sont toujours debout et en parfait état. Et construire bois, c'est construire durable, mais c'est construire viable et pérenne. Et je pense que le projet de la grotte de la Salamandre en est l'exemple même. C'est pour ça que il a été mis en avant par le palmarès construction bois, qui a pour vocation de démocratiser les bâtiments bois et de faire en sorte que l'on construise davantage, en se souciant aussi de la fin de cycle du vide des bâtiments, pouvoir déconstruire lorsqu'un bâtiment est devenu obsolète, ou le modifier lorsqu'il ne correspond plus à l'usage.
Merci. J'aimerais poser une dernière petite question, parce qu'on l'a vu aujourd'hui dans les projets sélectionnés, on a vu que le bois se mélange avec tout, avec le béton, avec l'acier, avec plein d'autres matériaux. Donc, il s'associe facilement quand même.
Le bois est un matériau qui s'associe très facilement aux autres systèmes constructifs. Et c'est vrai, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. C'est intelligent quand on essaie de mixer différentes techniques constructives pour tirer le meilleur parti de chacune d'entre elles. Et j'ai pour habitude de dire qu'en architecture, la bonne architecture, c'est le bon matériau au bon endroit et utilisé dans de justes proportions.
Merci Jean-François Dor.
Avec plaisir, vous êtes les bienvenus.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission du jury du prix régional de la construction bois Occitanie, en direct de la grotte de la Salamandre à Mégène-le-Clap, Saint-Privat de Chonclos. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.
À bientôt, salut.
Palabre en forêt.
L'émission qui va à la rencontre des actrices
et des acteurs de nos forêts cévenoles,
du Gard et de la Lozère.
Avec une rubrique découverte des richesses sauvages des forêts cévenoles. Et parfois des forêts francophones du monde.
sur Radio Barthas.
107 FM.
Latitude 500, longitude.